France Musique.
Que c'est donc bête que c'est idiot de rire comme ça.
Un des 20 musiques folles, Priscille Lafitte, France Musique.
Bienvenue dans la grande revue des années 20. Après le temps des pianistes, vient celui des orchestres à New York. Ce troisième récit se déroule entre février 1924 et octobre 1925, entre la création de la Rhapsody in Blue par George Gershwin et les dernières soirées au Roseland Ballroom de l'orchestre de Fletcher Henderson avec Louis Armstrong. Du bleu rhapsodique de Gershwin au bleu roi de Smack, c'est parti pour un nouvel épisode des années 20, musique folle. New York, 1924. George Gershwin est ballotté par le roulis régulier d'un train, l'esprit occupé par l'écriture d'un concerto de jazz pour Paul Whiteman. Gershwin avait laissé cette commande de côté, mais un article dans le journal Le New York Tribune, datant du 4 janvier 1924, vient lui mettre un coup de pression. Titre de l'article : Nomination des juges de Whiteman. Sous-titre : Le comité décidera de ce qu'est la musique américaine lors d'un concert de Paul Whiteman au Aeolian Hall le mardi 12 février. L'article du New York Tribune précise que George Gershwin travaille un concerto de jazz. Voilà donc Gershwin cherchant l'inspiration dans un train. Il en a l'habitude, il ne peut pas composer ailleurs que dans un lieu bruyant. J'étais dans le train avec son rythme d'acier, son bruit cliquetant qui si souvent stimule les compositeurs, raconte le pianiste. Lorsque soudain, je vis sur le papier la complète construction de la Rhapsody in Blue, du début jusqu'à la fin. Mais le temps presse et George Gershwin doit discuter avec Paul Whiteman pour alléger sa charge de travail. Un accord est trouvé, l'orchestration sera assurée par Ferdinand Roffey, dit Ferdy Roffey, l'arrangeur habituel de Whiteman. Et George Gershwin peaufine son œuvre chez un ami lors d'une soirée. Me mettre naturellement au piano au cours d'une réception est une de mes faiblesses, avoue Gershwin. C'est ainsi que, sans penser le moins du monde à la rhapsodie, je m'entendis jouer un air qui devait être en moi et qui ne demandait qu'à émerger. À peine était-il tombé sous mes doigts que je me rendis compte que je venais de trouver un thème. C'était la mélodie centrale de cette rhapsodie. Ici, on entend la version jouée par George Gershwin lui-même et reproduite grâce au rouleau de piano mécanique qui porte la trace précise du jeu du pianiste. Thank you. Paul Whiteman, l'organisateur de ce concert hors norme au Aeolian Hall avec George Gershwin, est la nouvelle vedette des disques Victor, recrutée avec son orchestre pour ambiancer le très chic Palais Royal à New York, à l'est de Times Square. Il évolue dans des cercles semblables à ceux décrits dans The Great Gatsby de Francis Scott Fitzgerald. Sans avoir l'étroitesse d'esprit du personnage de Gatsby le Magnifique, Whiteman est très conscient de sa position de dominant en tant que blanc. C'est du moins ce qu'écrit Joshua Barrett dans une étude comparative de Whiteman et Armstrong. Il s'agit pour Whiteman de hisser la musique américaine à la hauteur des compositions venues d'Europe, tout en s'appropriant le jazz, cette énergie emmagasinée en Amérique, comme dit Gershwin. Whiteman est enthousiaste à une semaine du concert. « Je sentais que George pouvait m'écrire la chose dont j'avais besoin, quelque chose qui démontrerait que le jazz avait progressé, quelque chose qui exprimerait ce que je cherchais à mettre en lumière. » Selon Whiteman, je le cite, « Dans n'importe quelle interview avec des sommités européennes qui viennent aux États-Unis, que ce soit Stravinsky, Bartok ou Ravel, ceux-ci confient qu'ils sont là pour entendre du jazz américain plus que des concerts de musique classique. » Peu de temps avant le concert de Whiteman au Aeolian Hall, a lieu, à quelques rues de là, dans le prestigieux Carnegie Hall, le 31 janvier 1924, la création américaine du Sacre du Printemps d'Igor Stravinsky, dirigé par Pierre Monteux, à la tête de l'Orchestre Symphonique de Boston. Le public new-yorkais s'était préparé au pire, écrit le New York Times, parce qu'il avait eu les échos de la création mondiale au Théâtre des Champs-Élysées à Paris 10 ans plus tôt et qu'il s'attendait à une musique laide et effrayante. Or, ce concert est un immense succès et la critique est enthousiaste. Comme l'écrit Olin Downes dans l'édition du New York Times le lendemain, le Sacre est traversé d'une énergie primitive et parfois vertigineuse.
Thank you.
Whiteman adore impressionner, il aime les esbroufes. Quelques mois plus tôt, on le soupçonne d'avoir mis en scène son retour triomphal d'une tournée à Londres en août 1923. Alors que le paquebot s'approchait du port de New York, les passagers ont levé la tête depuis le pont et ont vu un petit avion tirant une banderole pour l'accueillir. Dans la mer, une embarcation remplie de fans venait à la rencontre de Whiteman, tandis que des musiciens sautaient à l'eau avec des gilets de sauvetage pour jouer une musique de bienvenue. Sur le quai de la 46e rue, des dignitaires politiques attendaient, sans oublier les représentants de RCA Victor et des théâtres. Mais ce soir du 12 février 1924, au Aeolian Hall, Whiteman a une peur bleue avant de monter sur scène. Sergei Rachmaninov, Léopold Stokowski, Walter Damrosch, Yasha Eifetz, Fritz Kreisler, Léopold Goldowski, Ephraim Zimbalist et la soprano Alma Gluck, des stars d'Hollywood, tout ce beau monde a répondu présent à l'invitation. La salle est pleine à craquer. La scène est cachée par une grande tenture dorée avec la silhouette de l'orchestre. Le rideau s'ouvre sur des musiciens habillés de blanc, assis sur des chaises blanches et des gradins gris clair. Un grand piano ivoirien trône au devant de la scène. Devant l'orchestre, Paul Whiteman dirige depuis une estrade opaline incurvée en forme de coquillage. L'orchestre fait entendre, en ouverture du concert, un arrangement du tout premier morceau de jazz jamais enregistré en 1917 à New York par l'original Dixieland Jazz Band, le Livery Stable Blues. Mettre quelques critiques sur ce concert fleuve. Cet exposé didactique en 11 actes musicaux s'enlise dans de longues démonstrations. Il y a des compositions des songwriters du moment, les aînés de Gershwin, Irving Berlin, Jérôme Kern, rien de très neuf, ni de très jazz en fait. Le concert traîne en longueur, le public s'impatiente, certains commencent à partir. Quand la clarinette de Ross Gorman s'élance dans ce long glissando qui fait la signature de la Rhapsody in Blue et que Gorman a longuement mis au point avec Gershwin. Yeah. Puis Gershwin au piano improvise en grande partie ses cadences, donnant un signe de tête à Whiteman pour lui indiquer la reprise de l'orchestre. Cette Rhapsody in Blue est devenue l'œuvre emblématique de ces années folles, ces Roaring Twenties, comme disent les Américains, la décennie rugissante et que le jeune roi Gershwin incarne si bien. Le pianiste explique sa démarche ainsi, je le cite, « J'ai essayé de composer un kaléidoscope musical de l'Amérique, avec son grand mélange de races, notre incomparable vivacité, notre blues, notre folie urbaine. Dans la rhapsodie, j'ai voulu exprimer notre mode de vie, le tempo de notre quotidien, avec sa vitesse, son chaos, sa vitalité. » Le retentissement est immense. Le pianiste Sergueï Rachmaninov écrit « Mes compliments à Monsieur Whiteman. Le charme et l'intérêt de cet orchestre résident dans sa nouveauté. Il reprend et développe du matériel d'une façon caractéristique et neuve qui me fascine complètement. Voilà certainement de la musique américaine. On ne peut l'entendre nulle part ailleurs. Le critique du New York World, Deems Taylor, estime que la Rhapsody in Blue est, je cite, « un peu crue, mais donne à entendre quelque chose de nouveau qui n'a pas été dit jusque-là en musique ». Et il conclut « Gershwin pourrait bien sortir le jazz de la cuisine ». Précisément, aux yeux d'un public blanc, le jazz est alors encore en cuisine, en arrière-salle. Faut-il souligner qu'aucun musicien noir n'est invité à défendre le jazz sur la scène de l'Éolienne Hall ?
Un des 20 musiques folles, Priscille Lafitte, France Musique, c'est l'été.
Quel rapport Paul Whiteman entretient-il avec les formidables orchestres noirs, qu'il connaît bien d'ailleurs ? Armstrong racontera ses soirées où Whiteman amenait ses musiciens à Chicago écouter l'orchestre du King Oliver et prenait même des notes au premier rang, tandis que le reste de la salle dansait. Opposer radicalement ces orchestres blancs et noirs serait facile, et nous allons voir que la frontière entre ces deux mondes est plus floue, plus imbriquée, plus complexe qu'elle n'en a l'air à première vue. anecdote pour comprendre le contexte. 3 ans plus tôt, le 23 mai 1921, est créé à Broadway Shuffle Along. C'est un petit miracle, la première fois qu'une comédie musicale est écrite, jouée et dirigée par des Noirs. Il y a en tout 504 représentations, un chiffre faramineux pour l'époque, suivi de plusieurs tournées jusqu'en 1924. On y entend Hubie Blake et Noble Cecil, on y voit toutes les danses à la mode, on y entend le tube I'm Just Wild About Harry. Paul Whiteman reprendra cette chanson avec son orchestre. Et dans la fosse de Shuffle Along se trouve un jeune oboïste, William Grant Still, et ce musicien noir deviendra l'arrangeur principal de Paul Whiteman. Preuve que les mondes musicaux noirs et blancs se connaissent, se jaugent et s'apprécient. Mais quelques stéréotypes restent de mise. Ainsi, tout l'orchestre de Shuffle Along joue par cœur, sans partition. Hubie Blake l'a expliqué plus tard. Jouer par cœur était ce qui était attendu de nous. Les gens ne pouvaient pas croire que les Noirs savaient lire la musique. Ils pensaient que notre habileté à jouer de la musique est un talent naturel. C'est comme ça que James Rees Europe, dont on entend ici le Castle Walk, achète des arrangements de musique populaire, les répète avec ses musiciens, adapte la partition pour que ça sonne mieux, et puis l'orchestre mémorise le tout. Le soir, dans les cafés et les théâtres, James Rees Europe s'adresse au public pour savoir ce qu'il souhaite entendre. Il joue au naïf, demande au patron du bar de siffloter quelques mesures de la mélodie, qui avait été donc préparée d'avance. puis l'orchestre joue exactement ce qu'ils ont répété et le public est enthousiaste d'entendre le talent si naturel de ces Negroes. C'est une anecdote rapportée par Hubie Blake. Thank you. Nous avons quitté Louis Armstrong la semaine dernière sur la route menant de Chicago à New York à bord d'une Hop Mobile. Vous savez, ces grosses voitures emblématiques des années 20, construites à Détroit. Louis Armstrong s'est marié avec la pianiste Lil Hardin le 5 février 1924, soit une semaine avant le fameux concert de Paul Whiteman et George Gershwin. La pianiste Lil Hardin a encouragé son mari à quitter l'orchestre de Joe Oliver, à devenir soliste. Elle lui fait travailler son déchiffrage, elle développe ses connaissances harmoniques et elle finance même le voyage jusqu'à New York où son mari rejoint l'orchestre de Fletcher Henderson en octobre 1924. L'orchestre du pianiste Fletcher Henderson est de belle tenue. Les photos de l'époque montrent des musiciens tirés à quatre épingles. Chaque soir, avant de monter sur scène, Henderson passe en revue sa troupe et inspecte chacun des pieds à la tête. Fletcher Henderson, surnommé Smack, a été recruté au Roseland Ballroom, un nouveau lieu de divertissement et de danse, construit récemment au croisement de Broadway et de la 51e rue, dans le Theater District, le quartier des théâtres. Le dancing est réservé à un public blanc, mais le hot jazz suscite un tel engouement qu'un orchestre noir est embauché, celui de Fletcher Henderson. Les arrangements sont signés Don Redman, qui tient aussi les parties de saxophone, soprano et alto. À ses côtés, au saxophone ténor, Coleman Hawkins. Hawkins a 17 ans, il a une très bonne capacité de déchiffrage, il a étudié le violoncelle et le piano, et, jeune adolescent, il allait écouter Armstrong et Jimmy Noon à Chicago. « Ah mon vieux, ce qu'il swing, il swing à tout casser !» dira Armstrong à propos de Coleman Hawkins. Le pianiste Fletcher Henderson, lui aussi, a été au contact de la musique européenne dès l'enfance. Il a écouté du ragtime et du blues avec ses parents. Il est devenu accompagnateur dans des rent parties, puis démonstrateur de piano pour le label Black Swan, première maison de disques à être lancée par des Noirs. Il connaît donc très bien les attentes de l'industrie musicale. Louis Armstrong arrive dans un orchestre un peu trop collé monté à son goût. L'accueil est glacial. Smack avait des airs de Norvégien dans son strict complet griffaire, raconte Armstrong. Il lui désigne son pupitre. La répétition commence. Tous les musiciens regardent le nouveau venu du coin de l'œil et Armstrong joue sa partie. Et alors que le morceau indique un diminuendo, du fortissimo jusqu'à une nuance pianissimo, le chef interrompt l'orchestre et interpelle son nouveau trompettiste. « Louis, tu n'as pas suivi l'arrangement écrit sur la partition. Que fais-tu de l'indication pianissimo ?» Et Armstrong répond avec une fausse ingénuité. « Oh, I thought that meant pound plenty. Je croyais que ça voulait dire d'y aller à fond. » On pourrait traduire aussi en reprenant le jeu de mots sur le double P de pianissimo. « Je croyais qu'il fallait jouer à plein poumon. » L'orchestre se détend. Armstrong a mis ses confrères dans sa poche. Un morceau révèle bien l'esprit de Fletcher Henderson, c'est Dictee Blues. Le titre est un oxymore en lui-même. Le blues renvoie à la terre, à la mélancolie, à la survie, tandis que Dictee veut dire élégant, classe. On entend d'ailleurs des cloches dans le refrain, une sonorité synonyme de classy living, une qualité qu'Armstrong associait souvent à Henderson. Thank you. Oh, Play That Thing, vous l'avez reconnu, c'est le clin d'œil new-yorkais au Dipper Mouth Blues qu'on entendait à Chicago dans les premiers enregistrements d'Armstrong avec l'orchestre du King Oliver en 1923. L'arrangeur Don Redman a prévu ici une séquence de 16 mesures pour un trio de clarinettes. Autre curiosité, le banjo accompagne un solo de trombone. Et puis la trompette d'Armstrong recrée le style wah-wah de l'enregistrement originel avec Joe Oliver. Duke Ellington passe régulièrement écouter ce band et il témoigne « Quand l'orchestre de Smack a commencé à jouer en ville avec Louis dans ses rangs, personne n'avait jamais rien entendu de pareil. Il n'y a pas de mots pour décrire le choc qu'il produisait. Et Louis, comme n'importe quel autre musicien, trimballait son instrument avec lui, faisait le bœuf, jouait dans tous les endroits où il allait. Dans la rue, tout le monde parlait de lui. » Paul Whiteman vient lui aussi écouter le band de Fletcher Henderson et il conclut que s'il avait été blanc, de peau, il aurait été millionnaire.
Année 20, musique folle, Priscille Lafitte, France Musique, c'est l'été.
Tandis que Louis Armstrong découvre la vie new-yorkaise, Gershwin travaille sur une nouvelle partition. Il doit créer un New York Concerto, destiné à être joué dans le très respectable et prestigieux Carnegie Hall avec l'Orchestre Philharmonique de New York dirigé par Walter Damrosch. Le chef d'orchestre avait été très séduit par la Rhapsody in Blue en février 1924. Gershwin compose au piano, parfois la nuit. Il loue aussi un appartement dans un hôtel pour trouver la concentration nécessaire. Il a acheté quelques semaines plus tôt des traités de composition et d'orchestration à Londres, car cette fois, le pianiste doit orchestrer son œuvre. La veille du concert au Carnegie Hall, Gershwin s'exprime dans la presse new-yorkaise pour préparer le public. Je le cite. Le premier mouvement utilise le rythme du Charleston. Il est rapide et sa pulsation exprime l'esprit jeune et enthousiaste de la vie américaine. Celle-ci est nerveuse, pressée, syncopée, même accelerando, un peu vulgaire. Il y a un type de vulgarité qui représente la nouveauté. Le charleston est vulgaire, mais il a une force, une sensualité qui sont essentielles. 3 décembre 1925, le Carnegie Hall fait salle comble. Le public se presse, non pas pour entendre la 5e symphonie de Glazounov, encore moins pour les suites anglaises d'Henri Rabaud, mais bien pour le concerto en fa de George Gershwin.
Thank you.
Alexandre Glazounov est présent ce soir-là dans la salle. Gershwin est très content de le rencontrer. Le jeune musicien américain autodidacte se cherche un maître et demande à étudier l'orchestration avec lui. Le compositeur russe répond, après un silence gêné, que le concerto montre des faiblesses, qu'il lui manque des bases de théorie et de contrepoint, et qu'il faudrait d'abord y remédier avant de penser à apprendre l'orchestration. Le commentaire de Glazounov glace Gershwin. Ces paroles brutales produisent un choc sur lui, car Gershwin est lucide, il connaît ses carences. « Man Stomp par l'orchestre de Fletcher Henderson. Il s'agit d'une commande de Paul Whiteman à l'orchestre de SMAC. L'arrangement de Don Redman est d'une énergie nerveuse, avec des changements rapides d'humeur et de rythme. Alors est-ce une expérimentation de Don Redman ou plutôt une parodie humoristique du style de Whiteman? D'ailleurs, Paul Whiteman aimait à dire « L'instrumentation change à chaque demi-chorus, il faut du changement et de la nouveauté ». Novembre 1925, Armstrong quitte l'orchestre de Fletcher Henderson. Il veut retourner à Chicago, où sa femme, Lillardine, dirige l'orchestre des Dreamland Syncopators. La veille de son départ pour Chicago, le trompettiste organise une soirée au Small's Paradise à Harlem. Il fête généreusement sa dernière nuit à New York. Lui et ses amis ne lésinent pas sur les liqueurs et le gin fizz. Et au moment de repartir à la maison, Louis s'adresse à Fletcher Henderson, le remercie pour sa gentillesse, mais n'arrive pas à finir sa phrase et dégobille sur le beau costume gris vert de Smack. « Oh, that's all right, Dip », répond sobrement le pianiste. Armstrong se souviendra longtemps de ses adieux ratés. City, la ville des vents, au domicile où vivent Louis Armstrong et Lillardine, sur la 41e rue. C'est là que s'élabore le jazz, simplement, avec une poignée d'amis. Le couple réunit les joyeux compagnons de l'ancien créole jazz band du King Oliver. Il y a Johnny Dodds à la clarinette, son frère Baby Dodds aux percussions, Johnny Saint-Cyr au banjo et à la guitare, Pete Briggs au tuba et John Thomas ou Kidori au trombone en fonction des disponibilités. Ce sont les Hot Five ou Hot Seven selon les morceaux et ça swing terriblement bien. Ensemble, ils vont définir pendant les 4 années suivantes la nature, l'essence même du hot jazz. Alors d'où provient le jazz le plus innovant du moment ? Est-ce de la maison de Lyle et Louis Armstrong à Chicago ? Est-ce du Roseland Ballroom à New York avec Fletcher Henderson ? Est-ce du Palais Royal avec Paul Whiteman ? Ou encore des salles de théâtre où George Gershwin est à l'affiche ? Ou peut-être dans ce duo de Louis Armstrong avec le pianiste Earl Hines. Je vous laisse en juger. Demain, nous passerons la fin des années 20 à New York en compagnie de Sergei Rachmaninoff, George Gershwin, Duke Ellington, Bessie Smith, Maurice Ravel et Yashar Eifetz. Ce sera la suite de cette grande revue des Roaring Twenties. À la réalisation Catherine Tralegal, à la prise de son Antoine Giraud, attaché de production Marie Ferdinand. À demain! Tout de suite, Guitare Guitare de Sébastien Linares.
À réécouter sur francemusique.fr.